Vincent Genzi, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes responsable de la stratégie d'investissement chez Cholet-Dupont. On va revenir avec vous, bien entendu, sur les marchés, sur les perspectives sur ces marchés. On le voit toujours, les questions concernant les dettes souveraines hein, dans la zone euro semblent au devant de l'actualité pour les investisseurs. On reste toujours dans un contexte de peur où on a évolué, compte tenu peut-être de certains niveaux atteints. Quelle est l'ambiance pour vous?
Alors, on reste dans un contexte de grande incertitude pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on sait qu'au niveau européen, la résolution globale du problème va être longue, fastidieuse. Le temps de trouver les consensus auprès de tous les partenaires européens, bien entendu, et même dans la définition technique d'un plan global de gestion de la crise. Donc tout ceci est long, on l'a bien vu cet été où il y avait des déclarations contradictoires de la part de tous les intervenants, un déni de réalité également, mais non, il ne faut pas que la Grèce fasse défaut, mais non, il ne faut pas recapitaliser les banques européennes. Aujourd'hui, on a progressé en ce sens que tout le monde est beaucoup plus réaliste dans ses approches, comprend bien que la Grèce devra probablement faire un abandon partiel, enfin il faudra abandonner une partie des créances sur la Grèce, éventuellement un petit peu sur le Portugal. Bon. Donc ça, plus le fait, la prise de conscience qu'il faut également sauvegarder le secteur financier européen, amène à des discussions qui me semblent plus franches, plus constructive, mais néanmoins longue à mettre en œuvre après, au niveau des conclusions. On voit bien que la Slovaquie, qui vient de refuser, enfin, qui a voté contre la modification du Fonds européen de stabilité financière, bon, on espère qu'elle va revenir sur cette décision, mais on voit bien que tout ceci vient entraver
Le
la marche en
calendrier.
avant, le calendrier. Et donc ça va continuer. Mais cette prise de conscience générale a permis quand même au marché, j'allais dire au marché actions, mais c'est vrai également pour les marchés de taux, c'est vrai également pour les devises, c'est vrai également pour les marchés de matières premières, de pousser un ouf de soulagement. Parce qu'on s'est dit, ah, peut-être qu'on retrouve un pilote ou deux pilotes dans l'avion européen qui n'avait pas beaucoup de pilotes jusqu'à présent. Donc ce soupir de soulagement, il est probablement temporaire. Parce que j'ai un petit peu peur que les mécanismes économiques qui ont été mis en œuvre de ralentissement de l'activité en Europe, mais aussi aux États-Unis, vont quand même, non pas durcir, mais vont compliquer un peu la tâche des hommes politiques. Même si les hommes politiques se mettent d'accord, il leur faudra du temps, et on a parallèlement une évolution économique qui, elle, ne va pas dans le bon sens.
Alors, on met l'accent hein, bien sûr sur la zone euro, mais on pourrait dire qu'aux États-Unis, la situation n'est pas forcément plus favorable. On sait qu'il y a encore des discussions sur le nouveau plan de relance du président américain. Vu ce qui s'est passé cet été, certains peuvent se dire finalement, il va peut-être y avoir là aussi un nouveau blocage.
Il peut y avoir de nouveaux blocages. Je pense que les États-Unis sont probablement moins en avance que les Européens dans la réflexion sur le problème de leur dette souveraine. Ils sont aidés parce qu'il y a une croissance qui est structurellement un peu plus forte aux États-Unis, un pays qui réagit mieux dans les phases de crise. Il n'empêche que, comme vous le disiez, l'exemple de ces discussions stériles de cet été, la perte de la note triple A des États-Unis, montre bien que les États-Unis n'ont plus les moyens de doper la croissance comme ils l'ont fait en 2009 et en 2010, et que s'ils veulent montrer qu'ils sont un peu plus sérieux dans leur gestion publique, ça passe par un peu plus de rigueur, c'est-à-dire un peu plus de hausse d'impôts ou un peu moins de dépenses publiques, et que ceci va avoir un impact négatif sur la croissance américaine. Donc même si les États-Unis étaient, entre guillemets, un peu épargnés par la crise des dettes souveraines, j'ai peur qu'ils soient rattrapés. Et d'ailleurs, je crois que le marché américain, au début du mois d'octobre, quand on est allé, l'indice S&P est repassé très brutalement, très brièvement sous les 1100 points, c'était un premier signal d'alarme.
Alors on pourrait dire, hein, pour ceux qui cherchent des éléments positifs, que la croissance, il en existe quand des entreprises voyagent ou des investisseurs voyagent et disent qu'en Amérique latine, qu'en Chine, qu'en Inde, il y a de la croissance, donc il y a quand même de la croissance dans le monde. Mais on met tout de suite en avant aujourd'hui, compte tenu de cette situation qu'on a évoquée sur la zone euro aux États-Unis, que ces pays émergents vont peut-être avoir des difficultés en raison de cette situation dans la zone euro, par
Ah,
exemple, et aux États-Unis.
c'est sûr, l'alourdissement de la situation économique en Europe et aux États-Unis va avoir un impact négatif sur les exportations des pays émergents. Mais les pays émergents restent néanmoins des pays jeunes, riches, généralement détenteurs de réserves, parce qu'ils ont épargné et accumulé cette épargne. Ils ont également généralement des situations financières un peu plus saines que celle des vieux pays développés que nous sommes. Donc ils ont un peu plus aujourd'hui de cartouches et de moyens pour relancer la croissance. Il n'empêche qu'ils vont être les principaux contributeurs à la croissance mondiale en 2011 et encore en 2012, mais il est probable que leur rythme de croissance ralentisse encore un petit peu, pour les raisons que nous avons déjà évoquées, et par le fait également que l'inflation n'ayant pas encore reflué, aujourd'hui, les banques centrales dans les pays émergents sont extrêmement réticentes à rebaisser les taux et à abaisser la garde sur le plan monétaire. Donc cet élément-là, qui pourrait être positif, n'est pas encore tout à fait présent. De même que la baisse des prix des matières premières, qui s'est un peu accélérée, qui a atteint à peu près 20% depuis 3 mois, va dans le bon sens, mais c'est encore insuffisant pour faire baisser l'inflation et espérer une baisse des taux dans les pays émergents. Ça devrait arriver, mais c'est encore un peu tôt.
Du côté des entreprises, jusqu'ici en tout cas, les résultats qui ont été présentés ont été plutôt positifs, hein, pour la plupart d'entre elles. Est-ce que les analystes, quelque part, ont fait les révisions suffisantes à venir sur peut-être l'impact de ce ralentissement de la croissance sur les futurs bénéfices des entreprises?
Depuis 3 mois, les analystes ont révisé en baisse, en cumul, hein, sur 2011, 2012 et peut-être encore 2013, sur 3 années, ils ont à peu près révisé en baisse les résultats de 25%. Ce qui est normal quand on s'attend à un ralentissement assez prononcé de la croissance, mais pas une récession. Si on devait avoir une vraie récession comme en 2009, la baisse des résultats, c'est 50%. Donc moi, je pense que les analystes, assez rapidement finalement, se sont mis au travail et que eux-mêmes, comme les marchés, ont intégré ce ralentissement très très probable de l'activité. Mais une forte récession, ça, c'est pas encore intégré dans les cours. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises ont un discours à la fois confiant sur leur activité jusqu'au milieu de l'été et un discours également attentiste, parce qu'ils se disent, nous, on irait bien, mais s'il y a une crise financière qui s'amplifie, c'est comme en 2008-2009, ça va arrêter la croissance brutalement. Donc c'est assez inquiétant, c'est préoccupant, ça ne veut pas dire que la croissance va s'effondrer aussi rapidement qu'en 2008-2009, parce que les entreprises sont mieux gérées, plus saines, ont de la trésorerie, ont diminué déjà leur stock, donc elles auront moins besoin de serrer la vis si jamais la crise financière s'amplifiait, mais quand même, je pense que c'est un peu un cercle vicieux peut-être dans lequel on est entré, d'où l'importance de l'action politique aujourd'hui qui doit absolument essayer de devancer les marchés et de donner des programmes d'action pour les prochains trimestres et les prochaines années qui réconfortent les marchés.
En conclusion, en termes d'investissement, qu'est-ce que vous conseillez dans cette période? Est-ce qu'il faut être encore en retrait de ces marchés ou est-ce qu'il y a des opportunités compte tenu de certaines valorisations et à quel horizon?
Moi, je différencie très clairement les horizons d'investissement. Si on est dans un horizon d'investissement long terme, à 5 ans, je pense que les marchés actions ne sont pas chères et qu'il y a très probablement de bonnes affaires, à la Warren Buffett, si vous voulez. Mais c'est pas, enfin, tous les investisseurs n'ont pas cet horizon de temps pour leurs investissements. Donc, maintenant, à l'opposé du spectre, des investisseurs qui sont beaucoup plus traders, qui veulent plus intervenir en spéculation, peuvent continuer à profiter des mouvements erratiques du marché. Moi, j'ai bien vu que début octobre, quand le marché avait rebaissé, mais s'est arrêté assez rapidement dans la baisse, qu'il y avait une possibilité de rebond technique un peu plus prononcé qui s'offrait à nous et que les marchés pouvaient probablement redépasser un peu les niveaux qu'on avait connus fin août, début septembre. Donc un rebond d'à peu près 15%. Mais c'est extrêmement difficile à jouer. Donc c'est vraiment de la spéculation. Pour le cas général, qui est l'investisseur qui se dit, bon, j'ai du temps devant moi, mais je vais quand même essayer d'optimiser, de ne pas acheter si ça peut encore baisser. Je crois qu'il faut être raisonnable et se dire, voilà, on a quand même un ensemble d'éléments qui est quand même assez négatif, d'une incertitude qui va rester là, et une probabilité de baisse des marchés qui est non négligeable, et également une baisse qui n'est pas terminée en termes de timing. Donc je crois qu'il faut rester prudent, et il faut plutôt profiter des rebonds que l'on peut avoir en ce moment pour essayer d'alléger les portefeuilles si l'on a envie, si on veut être un peu plus prudent parce qu'on a peur, pour se retrouver dans une situation plus confortable si le marché rebaisse et pour pouvoir ressaisir des opportunités de court terme. Mais honnêtement, je ne vois pas dans les 6 mois qui viennent d'éléments suffisants pour revenir dans une tendance haussière. Enfin, il faudrait vraiment une conjonction d'éléments favorables très importants. Donc je pense que pour 6 mois encore, il faut être assez prudent.
Merci Vincent Ghazzi d'avoir fait le point avec nous, donc responsable de la stratégie d'investissement chez Cholet Dupont.
Merci.